L'actualité francophone avec RFI, avec la radio-télévision suisse, avec la RTBF, Radio-Canada et France Inter. Au programme aujourd'hui, la médecine au secours de ceux qui veulent avoir des enfants. Deux exemples et deux méthodes différentes au Canada et en Belgique. On verra ça dans un instant. En France, le débat sur la réforme des institutions, ça passera par la suppression de 30% des parlementaires. Au programme également, on vous expliquera pourquoi les remontées mécaniques sont à l'arrêt en Suisse, dans la station de Grand Montana. Enfin, on verra comment le surf pourrait devenir un sport à la mode en Gambie. C'est l'actualité francophone. Bienvenue à tous. En Suisse, on n'avait plus entendu parler de lui depuis plus de 2 ans. L'homme à l'origine des Swiss Leaks refait surface, Laurent Caspary.
Oui, et nul doute qu'Hervé Falciani se serait bien passé de ce comeback médiatique. C'est mercredi soir qu'on a appris qu'il avait été arrêté en Espagne à la demande de la Suisse, qu'il a jugé et condamné fin 2015 à 5 ans de prison pour espionnage économique. Hervé Falciani, c'est un informaticien qui travaillait pour la filiale suisse du géant bancaire HSBC à Genève. L'homme est considéré par certains comme un lanceur d'alerte car il a fourni une liste de près de 80 000 personnes mettant ainsi à jour des pratiques d'évasion fiscale et déclenchant des enquêtes dans plusieurs pays, dont la France et l'Espagne. Mais pour la Suisse, Hervé Falciani est et reste un criminel qui a volé des données pour tenter de les vendre. À l'Espagne maintenant de décider de l'extrader ou non pour qu'il purge sa peine.
Le portrait de la semaine sur RFI, Charlotte Hydrac, c'est un Malien remis à la Cour pénale internationale.
Oui, de Tombouctou à La Haye, Alassane, 40 ans aujourd'hui, est un présumé djihadiste. Entre avril 2012 et janvier 2013, il est commissaire de la police islamique de Tombouctou. La petite trentaine à l'époque, il fait appliquer la charia, interdiction de fumer, de boire de l'alcool, obligation de porter le voile intégral pour les femmes. Aujourd'hui, il est accusé de crimes de guerre et crimes contre l'humanité, notamment de viol, torture et destruction des mausolées de la ville.
L'homme de la semaine en France, c'est le patron du rail, le PDG de la SNCF, Guillaume Pépi, à la tête d'une entreprise empêtrée dans une grève prévue jusqu'à la fin du mois de juin. Les syndicats ont choisi 2 jours de grève tous les 5 jours pendant 3 mois. Les syndicats qui s'inquiètent d'une privatisation rampante de l'entreprise. Ils s'inquiètent aussi de la fin du statut de cheminot pour les futurs embauchés. Le patron de la SNCF estime, lui, que cette réforme annoncé n'a que trop tardé dans un paysage concurrentiel européen et que le statut actuel des cheminots n'est aucunement menacé. Les négociations s'annoncent délicates. Au Canada, Benoît Audet, votre personnalité de la semaine, eh bien c'est la nouvelle patronne de Radio-Canada.
Oui, elle s'appelle Catherine Tate. Elle prendra dans quelques mois la direction de Radio-Canada et de CBC, son pendant anglophone. Elle est la première femme à prendre la tête du diffuseur public et sa nomination a été très bien accueillie dans les milieux culturel canadien. Catherine Tate a une longue expérience du monde des médias. Elle est une productrice bien connue. Elle a aussi été attachée culturelle à l'ambassade du Canada à Paris.
En Belgique, Nathalie Devic, c'est un grand manfin, un manfin d'indignation que pousse la sœur spirituelle de Gaston. Le Gaston en question, c'est Gaston Lagaffe.
Et oui, la fille du père de Gaston, le célèbre dessinateur André Franquin, est sortie de ses gonds pour dénoncer l'adaptation française au cinéma du plus belge des rois des gaffeurs. À part son pull vert à col roulé, Isabelle Franquin ne reconnaît pas son frère de BD. Scénario débile, gag catastrophique, un véritable désastre, une aberration, tempête celle qui n'a pu empêcher le tournage du film avec les éditions Dupuis, ne disposant que d'un droit moral sur l'œuvre de son père. Frustration sur fond donc d'affaires de gros sous. Le réalisateur PEF, Pierre-François Martin Laval, estime lui ne pas avoir trahi notre cultissime Gaston. Le film étant sorti mercredi, au spectateur finalement de se faire son propre avis, mais enfin.
Au Canada, il y a donc débat en ce moment sur les mères porteuses. Un député du Parti libéral au pouvoir veut autoriser la rémunération des femmes qui porteront des enfants, les enfants des autres, ou bien lorsqu'elles feront des dons d'ovules. Pour l'instant, Benoît Audet, c'est une pratique qui n'est pas permise au Canada.
Oui, depuis 2004, il est interdit de rémunérer les mères porteuses ou encore celles qui font des dons d'ovules. C'est seulement permis au Canada si c'est gratuit. Ce que voudrait le député à l'origine de ce projet de loi, c'est de faciliter la vie aux couples homosexuels, par exemple, qui voudraient avoir des enfants et de leur permettre de trouver plus facilement une mère porteuse.
Et cela dit, ce projet de loi soulève des critiques, notamment de la part des féministes.
Oui, on dénonce l'instrumentalisation du corps de la femme. Le fait de porter l'enfant d'un autre en échange d'un montant d'argent, ça soulève tout un débat. Le premier ministre Justin Trudeau, qui se dit lui-même féministe, joue de prudence dans ce dossier. On l'écoute.
C'est justement au cœur des discussions et des réflexions que nous devons avoir en tant que société. Ce n'est pas une situation facile, c'est une situation complexe, mais c'est quelque chose sur lequel il va falloir qu'on se penche.
Les femmes qui siègent au sein même du Conseil des ministres de Justin Trudeau sont aussi divisées sur cette question. De toute façon, il y aura des consultations. Il s'agit d'un projet de loi privé qui devra franchir bien des étapes avant de devenir réalité.
Et le recours à la médecine pour avoir des enfants, en Belgique aussi, c'est d'actualité. La Belgique a décidé d'élargir l'accès aux techniques médicales qui permettent d'avoir des enfants après des maladies à risque, Nathalie Devic.
Oui, à risque pour la fertilité, on appelle cela l'onco-freezing. La méthode consiste à prélever, avant d'entamer une chimio ou radiothérapie, tous les éléments génétiques nécessaires à la reproduction et à les congeler afin qu'ils puissent être utilisés plus tard, après la guérison. De quoi redonner aux malades l'espoir de fonder une famille malgré des traitements très lourds qui ne permettent parfois plus d'avoir des enfants dans la foulée. Technique qui garde toutefois ses limites, comme le rappelle Anne Delbar, chef d'une clinique de la fertilité à Bruxelles.
Du côté masculin, on préserve du sperme. Du côté féminin, on peut préserver des fragments de tissu ovarien. Et donc, on peut regreffer éventuellement plusieurs années après la pathologie, pour peu qu'il s'agisse de cancer où il n'y a pas de risque de réintroduire des cellules malignes au moment de la greffe.
Cette technique existe depuis une quinzaine d'années en Belgique, mais elle coûte cher, jusqu'à 3 500 €. Du coup, l'an dernier, la ministre de la Santé a autorisé son remboursement intégral pour les personnes atteintes de cancer. Plus de 300 patients ont pu en bénéficier, dont une majorité d'hommes. Et vu son succès, il vient d'être décidé d'étendre ce remboursement à d'autres pathologies graves, comme les maladies rares du sang, qui entraînent elles aussi des risques d'infertilité. En fait partie la drépanocytose, une maladie génétique qui atteint l'hémoglobine et réduisait souvent à néant, jusqu'à présent, les rêves de pater ou maternité.
En France, c'était l'une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron, la réforme des institutions, à commencer par celle du Parlement. Le projet présenté cette semaine prévoit un tiers de parlementaires en moins à partir des prochaines élections législatives en 2022. Le projet prévoit aussi une dose de proportionnel, 15% de proportionnel pour que les plus petites formations politiques soient mieux représentées au Parlement. Moins de députés, donc bien, pourquoi pas, mais à condition que chaque député soit mieux entouré, avec des collaborateurs mieux formés pour mieux les relayer. C'est ce que souhaite notamment le député du groupe UDI Agir. Il s'appelle Pierre Morel-Aluissier. Il est le seul député du département français de la Lozère.
La France est très sclérosée et je crois qu'il faut simplifier un peu tout ça. Et moins de députés, plus de collaborateurs, mieux formés, ça serait une bonne chose. Je suis le seul député de la Lozère. Le point haut, le point bas, ça fait 3 heures de route. Je fais 7000 km par mois. Et je trouve que c'est très intéressant de pouvoir être en contact permanent sur son territoire.
Moins de parlementaires en France, 15% élus à la proportionnelle. C'est au contraire une mauvaise idée, estime l'ancien ministre socialiste, aujourd'hui député de la Sarthe, Stéphane Le Foll.
C'est complètement incohérent. Moins de députés, c'est des circonscriptions qui sont beaucoup plus vastes et beaucoup plus grandes. Et ça sera toujours le même discours de la part des Français qui, en même temps, sont tout à fait d'accord pour en avoir moins. Hein. C'est, mais on ne les voit plus. Et ils sont coupés de la réalité. Ils sont où ? Ils sont à l'Assemblée nationale. Je ne sens pas du tout le projet démocratique qu'il y a derrière. Au contraire, une manière de concentrer vraiment le pouvoir à l'Élysée.
Un dernier commentaire sur les 15% de proportionnel. C'est une aumône à la démocratie, dénonce la patronne du Front National, Marine Le Pen. Elle réclamait un taux à 25%. On part maintenant au Sénégal, où des passionnés de surf tentent d'exporter leur passion en Gambie, Charlotte Hydrac.
Oui, la Gambie, ce petit pays d'Afrique de l'Ouest enclavé dans le Sénégal. Là-bas, les plages sont immenses, peu dangereuses, les vagues sont bien là. Et pourtant, seuls quelques passionnés se jettent à l'eau. Babacar Thio, moniteur d'un club sénégalais de surf, découvre un secret bien gardé.
Regarde le potentiel qu'il y a ici. Le premier jour que je suis descendu sur la plage, je me suis dit « Ah, c'est super, moi je suis séduit. » J'étais un peu surpris de voir les vagues parce que je me disais que c'était un peu la Méditerranée, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le même niveau qu'à Dakar, mais il y a des vagues surfables ici. Il y a pas mal de beach break. En plus, ce qui est super, c'est que c'est du sable partout. Et ça, c'est vraiment primordial pour les gens qui débutent le surf.
Le club Sénésurf est venu animer des séances de découverte à Kartong, au sud de la capitale gambienne, pour partager donc cette passion pour ce sport déjà bien développé à Dakar, mais qui reste très confidentiel chez le voisin gambien. Car avant d'apprendre le surf, selon Babacar Thio, il faudra que davantage de Gambiens apprennent à nager.
Peut-être la différence qu'on a au Sénégal, il y a pas mal de pêcheurs. Et les jeunes, les boudés, à l'âge de 5 ans, 6 ans, ils commencent à aller à la mer, apprendre à nager et tout. Et c'est là d'où vient l'envie de surfer. Il faut qu'ils savent nager. Une fois ce stade rempli, après il faut passer au stade supérieur.
Les défenseurs de l'environnement gambien, en tout cas, voient ces surfeurs sénégalais d'un très bon œil, car cette pratique permet aussi de sensibiliser, selon eux, à la protection des plages et de la mer.
On termine ce magazine francophone avec une histoire assez surprenante. Ça se passe en Suisse. Voici l'histoire du milliardaire tchèque et des remontées mécaniques, Laurent Caspary.
Jamais je n'aurais cru que cela puisse se produire en Suisse. Cette affirmation provient d'un touriste allemand cité par la presse. Elle touche la fierté helvétique, là où ça fait mal. En Suisse, tout est bien organisé, les trains partent à l'heure et les remontées mécaniques transportent sans problème les skieurs au sommet de nos montagnes.
Et sauf que là, eh bien, ce n'était plus le cas, Laurent.
Eh bien non, comme des milliers de skieurs, ce touriste allemand s'est retrouvé mercredi matin dans la station UP de Grand Montana en Valais, devant des installations fermées malgré la neige et les excellentes conditions pour pratiquer le ski. En cause, une bisbille financière qui oppose les communes de la région et la société de remonte-pente qui exploite le domaine. Une société détenue très largement par un milliardaire tchèque, Radovan Vitek, accueilli il y a quelques années comme le sauveur providentiel. Sauf que voilà, le milliardaire n'est pas un mécène et il réclame de l'argent aux communes en guise de compensation pour diverses prestations. Une somme de 650 000 euros qui pose problème. Et comme il n'était pas payé, bien le milliardaire a décidé la mise à l'arrêt de tout le domaine skiable une dizaine de jours avant la fin officielle de l'exploitation.
Et on imagine que les dégâts d'image sont considérables pour une région qui rêve d'organiser les Jeux Olympiques en 2026.
Cela ne pouvait pas plus mal tomber. En effet, le Valais veut organiser les JO en 2026 et il se découvre à la merci d'une réaction épidermique d'un milliardaire tchèque. Le site de Grand Montana est en effet important dans le dossier de candidature. Cela dit, jeudi, après d'intenses négociations, une solution a été trouvée entre les différentes parties et les remontées mécaniques se sont remises en marche le lendemain. Tout est bien qui finit bien pour les skieurs de Grand Montana, mais cette crise a provoqué un vrai dégât d'image pour la destination, tout en créant une prise de conscience. Tout mettre dans les mains d'un seul homme, milliardaire ou pas, ce n'est sans doute pas la meilleure chose à faire.
Voici pour l'actualité francophone de la semaine. Merci à tous les contributeurs de Suisse, du Canada, d'Afrique, de Belgique et de France. Le prochain rendez-vous, ce sera la semaine prochaine, au même endroit, à la même heure.